I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se targue en grand romantique d'être plutôt accroché à la notion de fidélité, fidélité cinéphile aux univers qui nous sont chers, et pas Jennifer, je sais pas qui est Jennifer, aux genres, aux ambitions, aux créateurs qui selon nous méritent leur place à la grande table des artisans de génie. Parmi eux, un certain Ang Lee qui, malgré une carrière où les faux pas ne sont pas absents, sait régulièrement faire la démonstration de l'étendue de ses talents. C'est donc avec un certain frétillement que nous attendions son Gemini Man, auquel nous consacrons cet épisode avec un trio baigné d'une éternelle jeunesse. Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 203 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Gemini Man donc nous raconte l'histoire de Henry Brogan, alias Will Smith, assassin de profession, tireur d'élite, désireux de se ranger des voitures, qui se retrouve soudain confronté à un jeune tueur redoutable et surtout capable d'anticiper à peu près toutes ses réactions. Et pour cause, il s'agit de rien de moins que son clone plus jeune. Il va donc devoir essayer de comprendre comment et surtout pourquoi cette doublure a été créée.
You made a choice to do this to me.
This thing that you're struggling with, it's fear. Embrace it and then overcome it.
Of all the people in the world to come after me, why would he send you?
Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ang Lee, réalisateur entre autres de Tigre et Dragon, de Brokeback Mountain, de l'Odyssée de Pi ou encore du très beau Un jour dans la vie de Billy Lynn, auquel nous avions consacré un épisode à l'époque. Et au casting, outre Will Smith et Will Smith, donc, on trouve également Marie-Elisabeth Winstead, Clive Owen ou encore Linda Hammond. Et ce laïus introductif ne serait pas complet si j'ajoutais pas que le film a été tourné à très haute fréquence, à 120 images par seconde, et on va en parler évidemment, qu'il est visible dans ces conditions, dans certaines salles seulement, en France. Votre avis sur ce Gemini Man, chers amis? Alors, j'ai plus le droit de donner la parole à Julien Dupuis en premier, vous le savez, il y a une jurisprudence en cours dans cette émission. Je vais donc la donner à David Honora, qui est juste à côté de lui. David.
Oui, alors pour parler de Gemini Man, il faut qu'on revienne un petit peu sur Billy Lynn, dont on avait parlé dans l'émission à l'époque
avec
Arnaud.
Avec enthousiasme.
Si je ne me trompe pas.
Avec Arnaud et
avec
enthousiasme.
Arnaud, on était trois. À l'époque, j'avais dit qu'on n'avait pas pu voir le film dans les conditions proche de l'idéal et surtout on n'avait pas pu le voir en haute fréquence. Et du coup j'avais dit que c'était un petit peu comme voir un Velázquez par le trou d'une serrure, c'est-à-dire qu'on avait vu un très grand film, un très beau film, mais on ne pouvait que imaginer ce que ce film devait réellement être. Avec Gemini Man, on a eu la chance de pouvoir le voir quasiment dans ses conditions idéales, alors avec un petit défaut, peut-être que Julien on parlera un peu plus en détail tout à l'heure, c'est que le film n'est pas projeté en 4K, mais en 2K. Donc la résolution est un petit peu plus faible, mais il est projeté donc dans la salle où on l'a vu, c'est-à-dire au Pâté Beaugrenelle à Paris, dans une salle qui est marketée Dolby Cinema, en 120 images par seconde et en 3D. Donc c'est les termes. Alors, le problème, c'est que sur ces nouvelles technologies, à chaque fois, les termes marketing changent. Donc maintenant, c'est 3D, 3D+, Dolby voilà. Cinema. Et donc, il existe
Dolby une. Dolby Cinema, c'est très différent, c'est une réalité
spécifique. Aussi sur...
Alors,
ouais.
Donc...
Mais en tout cas, c'est ces termes qui permettent d'identifier les salles si vous voulez le voir dans ces conditions. Et donc, en France, il y a une dizaine de salles Pathé Gaumont qui sont donc siglés Dolby Cinema 3D+, et c'est celles-là qui vont passer le film en 120 images par seconde. Et donc Pourquoi je reparlais de Billy Lynn, c'est parce que pour moi, Billy Lynn était un chef-d'œuvre et je trouve assez intéressant le fait que justement, il ait déjà fait ce film avant parce que en gros, pour moi, il a résolu la question de est-ce qu'on peut faire des grands films de cinéma avec la technologie. Oui, il l'a déjà fait. Et là, avec Gemini Man, il est plus dans une démarche plus expérimentale, qui fait que le film en lui-même, sur sa matière, sur son scénario, sur certains aspects de mise en scène et sans doute décevant, en tout cas un peu anecdotique, en tout cas en revanche sur la forme, c'est tout simplement du jamais vu. C'est-à-dire que j'ai vu devant ce film des choses que mes yeux n'avaient jamais vues. Mmh. Et notamment sur des séquences d'action que des décennies de cinéma d'action nous ont appris à concevoir d'une certaine manière et surtout nous ont appris à ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas.
Oui.
Notamment dans une poursuite, très souvent les protagonistes, les véhicules sont noyés dans une sorte de flou de mouvement. Le flou de mouvement, c'est un truc qui est très important. En gros, c'est le fait que si vous faites arrêt sur image sur un film classique, ça va être flou parce que le véhicule, il est à plusieurs moments, à la fois au moment où il a été capté, et à tel point que même des films d'animation, par exemple pour Pixar, ça a été un gros challenge à ses débuts de reproduire le flou de mouvement, parce que c'est comme ça qu'on interprète le mouvement, l'action, les déplacements. Et donc en fait, avec Gemini Man, on a le droit notamment à une séquence de poursuite à moto, qui est entièrement net, c'est-à-dire que tout est net et tous les déplacements de la moto en permanence sont complètement nets. On a des scènes aussi de poursuite et de combat de nuit où on a une clarté qui est assez saisissante, des scènes de fusillade où on voit presque les balles, enfin j'exagère un petit peu mais c'est presque ça, on voit les impacts avec une clarté qu'on n'a jamais vue, et du coup il y a tout un une partie inexplorée visuelle qui s'ouvre à nos yeux. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec le film, c'est que d'un coup, on se dit le cinéma d'action, jusqu'ici, ne pouvait pas nous montrer autant que ce qui devient possible avec cette technologie. Et c'est hyper... C'est grisant, quoi. C'est fascinant et on a envie de se dire jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc moi je reste d'abord là-dessus sur ce choc de me dire en fait le cinéma on est loin d'en avoir fait le tour et il y a encore plein de nouvelles voies qui s'ouvrent à nous.
Stéphane,
alors il y a effectivement ce dont a parlé David qui est très important parce que c'est vraiment le défi d'Angli et c'est un défi aussi de narration, hein, c'est-à-dire vraiment comment faire ressentir ces choses-là aux spectateurs. Après il y a le problème, c'est que on fait une émission qui est un peu large, on parle du film de manière générale pour tout le monde. Donc pour moi, il y a deux manières d'aborder le film. Il y a une manière de l'aborder comme, je pense, problématiquement pour l'instant, la plupart des gens vont le voir. C'est-à-dire, ils vont voir un film avec Will Smith qui se bat contre son double plus jeune. Donc voilà, donc ça c'est un concept des années 90, parce que ça fait depuis les années 90 que Jerry Bruckheimer essaye de développer le film. Il y a eu beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs en fait qui ont
Sean Connery notamment, énormément de gens.
Énormément de gens qui ont tourné autour du projet. Et c'est un high concept totalement années 90, comme par exemple un volte-face à l'époque avec Travolta et Nicolas Cage, qui s'échangeaient leur visage. Et donc c'est ce genre de film-là, avec effectivement de temps en temps une écriture un peu problématique pour solutionner un problème, on part d'un endroit à l'autre, on prend un jet, tu vois, parce que comme ça, tout le monde a un jet dans sa vie. Voilà, c'est des trucs de cinéma pur, hollywoodien d'époque. Le film porte encore ces stigmates-là. Maintenant, je pense pas que ce soit, un défaut en soi, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a ce concept, alors on pourrait dire, pour se moquer, on pourrait dire oui, c'est double impact, hein, Van Damme il l'a fait à l'époque, c'est Van Damme contre Van Damme, c'est Will Smith contre Will Smith. Sauf que, Ang Lee, c'est pas Sheldon Lettich.
c'est pas exactement la même chose.
Voilà, et je pense que quand il choisit ce projet-là, déjà c'est super couillu de sa part, moi je trouve, Après, le revers qui s'est vraiment essuyé, hein, il faut le préciser sur Billy Lynn, vis-à-vis non pas de l'échec commercial, mais l'échec critique hein, du film. C'est-à-dire que vraiment, il s'est fait ramasser la gueule sur ce qu'il a présenté à l'époque.
Aussi pour des raisons politiques sur le sujet du film, et la manière dont il a été reçu aux États-Unis est aussi liée au fond.
Oui, mais alors sur la forme, en fait, le problème, c'est que voilà, même là, récemment, j'ai lu un article de Télérama, pour ne pas le citer, où en gros, la personne qui a écrit, j'ai oublié son nom, hein, je suis désolé pour elle, dit en gros, c'est du jamais vu, on espère qu'on le reverra jamais. Donc voilà, il y a une espèce d'approche rétrograde, en fait, sur le HFR, qui est assez évident. Je vais peut-être le préciser aussi pour les gens qui pensent ne pas forcément avoir vu un film en HFR, il y a quand même eu les Hobbits hein, qui sont sortis aussi dans certaines salles à l'époque. Voilà. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que il y a quand même un espèce de jeu thématique dans ce que le film raconte, qui est lié aussi à la technologie. C'est-à-dire, il y a l'idée de regarder qui on a été et qui on peut devenir, etc., etc., qui est quand même assez intéressant en fait là-dedans, et qui est, à mon avis, pas innocent de la part d'Ang Lee quand il décide en fait de pousser les potards à fond pour la technologie sur ce film là et après voilà, alors c'est quelque chose que Julien m'a pointé du doigt quand il a vu le film, que Yannick lui avait pointé du doigt, Yannick Dahan, notre ami collègue, lui avait pointé du doigt. C'est un film qui s'ouvre sur un train qui arrive en gare, et donc en fait de manière assez célèbre, l'arrivée du train en gare de La Ciotat, je pense que c'est une question de ressenti. Il faut savoir qu'à l'époque, quand les lumières ont filmé ça, les gens avaient l'impression dans la salle en fait que le train allait leur foncer sur la gueule. Quoi. Donc quand un cinéaste aussi finalement reconnu, plébiscité, et je pense cinéphile, que Ang Lee utilise cette image-là, il l'utilise à bon escient. C'est-à-dire il l'utilise en ayant cette conscience que ce que je vais vous montrer, ça va vraiment être une redécouverte du cinéma. D'ailleurs, son credo à lui, c'est de dire il faut trouver la nouvelle forme du cinéma, c'est-à-dire à travers l'emploi de la caméra numérique et ce genre de choses. Donc oui, alors il y a cette notion.
Je voulais dire un truc sur le train, parce qu'il pousse encore plus loin le parallèle justement entre la thématique du train et la technologie, parce que l'enjeu de la première scène, c'est Will Smith qui est avec un fusil de sniper et qui va devoir mettre une balle dans la tête d'un passager qui est dans un TGV en fait. Et du coup, tout l'enjeu, c'est que son œil soit capable de saisir la frame pile au bon moment, et c'est une, comment dire, translation
à plus forte raison, parce qu'il y a un jeu de format en fait au début du film, en fait, où tu le vois à travers la lunette du sniper. C'est un truc que Ang Lee a souvent fait, en fait, le jeu de format. Il le fait dans l'Odyssée de Pi, il le fait dans Hulk, il l'a fait dans plein de films, donc voilà. Et après, alors oui, effectivement, il y a les scènes d'action qui sont assez dingues. Alors moi, je vais vraiment essayer d'être dans le ressenti pur, en fait, de le sentiment que j'ai en fait quand j'ai regardé ce film, et c'est très perturbant, c'est à la fois en fait exaltant et perturbant, c'est que en regardant le film avec la technologie, c'est-à-dire vraiment tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été présenté en fait au public et conçu de A à Z, parce que je pense que le souci, c'est que si on regarde ce film en 24 images dans une salle classique, c'est pas seulement qu'on regarde un film qui n'a pas été pensé pour ça, c'est aussi qu'en fait il n'a pas été terminé en post-produit pour ça. C'est-à-dire que je pense que s'il y a une version qui a vraiment été travaillé au petit soin jusqu'au bout, c'est celle que Ang Lee voulait à fond, et le reste, je pense que les directives sont un peu démerdez-vous, quoi. Donc il y a quand même des chances que le film soit pas bien en fait, même techniquement, en termes de, par rapport aux autres standards, quoi. Et le truc, c'est qu'en termes de ressenti, ce qui est assez impressionnant et perturbant, c'est que en fait, c'est de la même manière que je suis en train de te parler, que je te vois. Mais il y a ce ressenti-là, en fait, quand on regarde un film comme Gemini Man, parce que il y a une approche naturaliste qui est très poussée, en fait, de la part d'Ang Lee. Ce qui fait que, admettons que, par exemple, pour prendre un exemple sur la scène d'action, admettons qu'on ait pu voir une scène d'action de cet ordre-là, où quelqu'un, en fait, tout simplement, qui se crache en moto, en vrai, devant toi, c'est comme si, en fait, Ang Lee multiplier ton point de vue. En fait, si tu vois quelqu'un se cracher, il multiplie ton point de vue, et du coup, en fait, les sensations que tu vas ressentir. Je sais pas si je suis assez clair là-dessus, mais il fait de la mise en scène, on va dire, avec ce que toi tu vas voir, en fait, si tu vois de ton propre point de vue un mec se cracher devant toi en bagnole ou en moto ou je sais pas quoi. Donc la multiplication de la mise en scène, elle est démente en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a ça, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'enjeu du personnage de Junior, en fait, il s'appelle Junior, le personnage de Will Smith jeune, voilà. En fait, c'est d'y croire comme si en fait c'était quelqu'un que tu voyais en face de toi, comme si limite t'étais Will Smith et que tu voyais en fait ton propre double en fait toi-même. Et comme c'est un rajeunissement numérique, alors peut-être pas forcément, Julien me corrigera peut-être là-dessus, dans les mêmes technologies que celles que Marvel emploie.
C'est pas du tout un rajeunissement numérique, hein. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il pouvait pas en fait avec ce truc-là. C'est un personnage entièrement numérique, CGI.
Mais performance captée.
C'est de la performance capture, mais c'est pas du tout les technologies en fait de Marvel.
Qu'on voit chez Marvel. Ouais.
Voilà. Et du coup, en fait, on croit totalement à la présence du personnage, tout simplement parce que voilà, quand on regarde la bande-annonce sur Internet en 24 images secondes, effectivement, on peut voir que c'est un personnage retouché, mais non réel, quoi. Mais c'est pas du tout le cas en fait quand on regarde le film. Et du coup, si on multiplie ça sur tout ce que le film tente, c'est-à-dire des scènes de nuit, des scènes d'action, des scènes de conversation, de chant contre chant, des choses comme ça, en fait, des trucs où il va raccorder, par exemple, même dans une simple scène d'action si simple que Will Smith qui envoie une grenade qui rebondit sur un miroir qui repart de l'autre côté. Là déjà, bon, la thématique elle est quand même assez évidente, quoi. Même en 24 images secondes, et que tu vois ça en fait avec une telle fluidité, t'as vraiment, voilà, le terme marketing qu'ils utilisent c'est immersif, mais c'est vraiment ça. Il y a une logique d'immersion où t'as l'impression que t'es le quatrième sidekick sur le film, entre guillemets, quoi.
Julien,
je pense que le cinéma aujourd'hui est confronté à un problème fondamental et qui n'est pas industriel. Ce que j'entends par industriel, c'est économique notamment. C'est-à-dire que, et on n'est pas les derniers à se plaindre de ça, il y a des dérives aujourd'hui. Disney, c'est l'exemple le plus flagrant, etc., qui abîment le cinéma. En tout cas, qui abîment le cinéma qu'on aime. Mais je pense que le problème, il est ailleurs. Et je pense que le problème, ça fait longtemps qu'il se pose. Je pense que le cinéma, c'est un art qui se définit pas exclusivement, mais en grande partie par sa technologie. C'est comme ça, c'est un fait, ça fait partie de ses gènes. C'est comme ça qu'il s'est renouvelé, c'est comme ça qu'il s'est créé, c'est comme ça qu'il a trouvé sa raison d'être, c'est comme ça qu'il a continué à exister alors que la télé envahissait les foyers de tous les gens qui allaient auparavant au cinéma, et c'est comme ça qu'il peut continuer à exister. Et aujourd'hui, le cinéma, j'apprends rien aux auditeurs de nos ciné, il est en danger. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que l'audience continue à croître, mais on voit bien qu'il n'occupe plus la place qu'il a pu occuper par le passé. Il faut que le cinéma retrouve sa place. Et je pense que ça, c'est pas une problématique, j'ai même envie de dire quelque part artistique. C'est une problématique purement technologique. Il faut que le cinéma retrouve sa place en salle. C'est important, c'est comme ça. Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, c'est une réflexion que j'ai eue en interviewant beaucoup de gens, qu'il y a une fatigue autour du langage cinématographique tel qu'on a pu le pratiquer auparavant. Et je pense que c'est d'autant plus grave que le cinéma, finalement, a beaucoup stagné sur ces quelques dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y a des belles avancées au niveau de sonore, notamment. Il y a eu cette percée, en fait, du relief. Et ça, on l'oublie, en fait, aujourd'hui. Mais pourquoi il y avait le relief à une époque et pourquoi ça tenait tant à cœur, en fait, à Cameron de remettre en place le relief ? C'était pour redonner sa place à l'expérience en salle. Et il y a eu des petites tentatives comme ça. Mais je pense que le cinéma a été profondément abîmé, on va dire, dans les années 70. Et quand je parle de cinéma, hein, je parle de l'expérience en salle, encore une fois, donc la définition fondamentale du cinéma, avec en particulier le morcellement des salles. C'est-à-dire la disparition des grandes salles qui a été à peu près générale dans toutes les grandes capitales, en tout cas, au profit de plus petites salles. Et parallèlement à ça, une stagnation avec du 35 mm qui a été remplacé après par des projecteurs numériques. Mais finalement, les projecteurs numériques n'ont rien vraiment changé à la problématique. Parallèlement à ça, il y a eu aussi un frein qui a été pareil sans précédent dans l'histoire du cinéma et que moi j'ai vu apparaître, disons, ces deux dernières décennies, d'attitude profondément réactionnaire vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, pour une frange de la critique du public et un petit groupe de cinéastes, le cinéma, c'est le cinéma. Et puis c'est tout. Puis on a trouvé la solution miracle du cinéma il y a plus de 50 ans maintenant, qui est cinéma couleur. Alors, tu peux choisir le format, mais sonore, à 24 images par seconde et en pellicule de préférence. Je pense que ça, c'est une erreur fondamentale, en fait. Et je pense que le cinéma, il a besoin de neuf. Et je pense que le cinéma, il a besoin, en fait, que tu retrouves sa raison d'être, en fait, et sa raison d'exister. Et ce qui l'a rendu vivifiant, surtout à ses débuts, quoi. Alors, comment tu résous cette problématique-là ? Je vais venir à Jamie Mann, hein, t'inquiète. Je vais être très inquiet, mais comment tu as... Quelle a été la finalité en fait du cinéma? Comment il a fonctionné le cinéma? Quel a été son moteur? Même quel a été le moteur avant ça des lanternes magiques et de toutes les expériences photographiques qui avaient pu précéder l'arrivée du cinématographe? Il a cherché à s'approcher du regard humain. Le cinéma, c'est capter un environnement ou recréer un environnement pour l'assujettir au regard d'un metteur en scène, d'un auteur, d'un narrateur, de quelqu'un qui va te raconter une histoire. Mais il faut capter cet environnement. Et capter cet environnement, si possible, de la façon dont tu vois, tu perçois ton environnement. Et il y a eu des tentatives qui ont été faites, etc., mais qui ont été avortées. Et malheureusement, la haute fréquence est une tentative qui arrivait très vite, notamment après 2001, parce que moi, je trouve que 2001, c'est un peu le point de basculement. C'est-à-dire que c'est un peu le point final où, en fait, on a réfléchi vraiment à ce truc de cinéma immersif et tout. Puis après, on l'a un peu perdu, en tout cas, l'industrie. Dans
2001,
son
parles de l'année ou du film?
De l'année. Pas de l'année, du film, pardon.
Du film.
En 68.
Stanley Kubrick,
mais voilà. Et du coup, en fait, comment tu récupères en fait, le regard humain? Et la haute fréquence est, disons, une des solutions les plus évidentes avec le relief. Pourquoi? Parce que, en fait, le 24 par image par seconde n'a pas été choisi pour des raisons artistiques. Il n'a pas été choisi pour des raisons esthétiques, hein. Le 24 images par seconde a été choisi pour des raisons principalement économiques. C'est-à-dire que même arrivé, il a été indexé en fait sur l'arrivée du cinéma sonore, mais même avec ça, on aurait pu faire un peu plus de fréquences d'images par seconde. Mais ça coûte plus cher, parce que tu imprimes plus de pellicules, puis les copies du coup coûtent plus cher. Donc on s'est arrêté là. Et il y a eu des tentatives, hein. Bon, la plus célèbre c'est le Shoscan de Douglas Trumbull, d'augmenter en fait la fréquence d'image. Et ça, c'était intéressant parce que Douglas Trumbull, de la même façon que Cameron le fera des années plus tard, avait testé en fait la réaction physiologique. Donc là, on parle de science, hein, vraiment pas de perception artistique d'une œuvre, mais la relation physiologique d'un spectateur lambda sur ce qu'on était en train de lui montrer. Il l'a comparé à 24, je crois que c'était 24, 48, 60. Et je crois qu'ils s'arrêtaient à 60 à l'époque. Je crois qu'ils n'arrivaient pas à aller au-delà. Mmh. Et les résultats étaient monumentaux. De la même façon que, scientifiquement, il est prouvé que quand tu perçois une image en relief et quand tu la perçois à plat, la réaction physiologique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissante. Et du coup, je pense que... avec Jamie Mann, mais comme on l'a pressenti un peu avec le Hobbit, et puis j'imagine qu'on devait le sentir avec Billy Lynn, et malheureusement, comme mes confrères, moi, je n'ai pas pu voir le film comme il a été conçu. Mais moi, je suis heureux en fait, d'avoir vu ça aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de redécouvrir le cinéma, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de me dire, mais il va là, en fait. Le cinéma, il peut aller là. Il peut redonner, il peut retrouver une vigueur, en fait, là-dedans. Il peut être à nouveau vivifiant. Et je pense que c'est réussi déjà parce que la technologie, elle est quand même vachement au point. Parce que je pense aussi que, et ça, c'est la grande force et la grande intelligence, à mon avis, du projet, qu'il y a un fonctionnement, je trouve, qui fonctionne bien, conjoint, entre, d'une part, le relief, le 120 images par seconde, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, en fait, mais tous les soucis que vous pouvez ressentir sur le relief, à mon sens, hein, ils disparaissent, mais alors totalement avec la haute fréquence. Mais totalement, c'est-à-dire les effets un peu trop stroboscopiques des mouvements rapides, les problématiques sur les volets, par exemple, les bords cadres qui peuvent te gêner vachement à 24 images par seconde en relief. Quand tu as un bord cadre, des fois, c'est vraiment désagréable. Tout ça disparaît. Enfin, pour moi, hein, le relief est d'un confort incroyable. Et un autre truc qui est l'image de synthèse. Et la performance capture, en l'occurrence, quoi. Ça, pour le coup, moi, j'avais vraiment ressenti ça dans le Hobbit, où tout à coup, je me disais, putain, c'est les images de synthèse qui font plus vrai que les autres acteurs. Parce que dans le Hobbit, il y avait ce problème-là énorme, qui était qu'ils avaient fait de la haute fréquence, mais sur un film qui était conçu traditionnellement. Et du coup, je trouve que sur la haute fréquence, tu percevais tous les défauts du cinéma traditionnel. C'est-à-dire qu'un acteur maquillé, tous les acteurs sont maquillés sur un film, et là, un acteur maquillé, bah, tu le voyais, tu le sentais. Un travelling qui subissait un à-coup, bah, tu le sentais aussi. Par contre, quand c'était en numérique et quand c'était des visages numériques et tout à coup, ça prenait une incarnation comme ça, je ne sais pas comment dire, mais il y avait une présence incroyable dedans. Et Ang Lee travaille en fait sur tous ces éléments-là. Et ça fait Jamie Mann, ouais, un film qui, pour moi, hein, ça fera date. C'est-à-dire que je sais, je l'ai vu et je sais que je m'en souviendrai. Et je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Ceci étant dit, c'est pas... comment dire ? C'est-à-dire que je pense que c'est un grand film pour ce qu'il représente et ce qu'il annonce, c'est pas un film exempt de défauts. Mmh. C'est vrai qu'il y a des... Moi, je trouve qu'il y a des... Par exemple, il y a un personnage de sidekick humoristique. Je vois pas trop ce qu'il vient foutre là. C'est vrai que le scénario, il est un peu suranné.
Il a un jet.
Ouais, mais le scénario est un peu suranné. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, par contre, aussi au niveau du propos, et je finirai là-dessus pour pas trop vous saouler, mais moi, ce qui m'intéresse du scénario et du projet du film, c'est que c'est aussi un film de mercenaires. Et ça, c'est un autre truc, moi, qui me touche beaucoup au cinéma. J'aime beaucoup ça, en fait. Mmh. J'aime bien quand un auteur arrive, on lui dit, bah, tiens, on va te refiler ce vieux projet un peu moisi. Et le mec, il arrive à trouver là-dedans. Ce qui est intéressant avec Jamie Mann, c'est que tu l'aurais filé à n'importe qui, un bon faiseur, on va dire. Hein. Ça aurait été une croûte infâme, quoi. Mais là, il a trouvé des billets, en fait, là-dedans, de s'exprimer, en fait, Angli. Alors, David et puis Steph, ils ont parlé de plein de choses qui sont totalement pertinentes et qui sont là. Moi, il y a plusieurs choses, en fait, qui m'intéressent là-dedans. De façon un peu plus superficielle, il y a le fait que ce soit un film d'espionnage. Enfin, c'est pas superficiel, parce qu'en fait, c'est les deux strates de ce que je vais démontrer. Je vais essayer de démontrer. C'est un film d'espionnage. Alors ça, il y a un truc qui est super cool, c'est que dans les films d'espionnage, en règle générale, hein, on va dire, un des plaisirs du film d'espionnage, par essence, c'est le voyage. Mmh. C'est ça que tu vas voir dans les James Bond et tout. C'est quel pays, cette fois, James Bond va visiter et tout. C'est génial, en fait, en haute fréquence, parce que t'as vraiment l'impression d'être là. D'être sur ces pays-là, en fait, de visiter Carthagène, d'aller à Budapest et tout, c'est incroyable, c'est génial. Ça redonne, encore une fois, un sens à ça. Maintenant, tu t'en fous un peu que James Bond il aille dans tel ou tel pays, la Terre s'est rétrécie, c'est plus comme avant. Par contre, dans Jamie Mann, c'est incroyable parce que tu te dis, putain, en l'espace de 2 heures, je suis allé là et tout, et t'as vraiment eu l'impression d'y être, d'avoir vu ces étals, d'avoir vu les peintures un peu écaillées et tout, c'est incroyable, t'as vraiment cette impression. De sensation de voyage et sur l'autre truc, sur le film d'espionnage, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est sur le mensonge. Mmh. C'est à dire que moi je pense que Ang Lee, il est sur toutes ces technologies là et depuis l'Odyssée de Pi, ce qui l'intéresse, je pense, hein, c'est, et même sur Hulk, j'ai envie de dire, et là je parle de l'image de l'image de synthèse photoréaliste du coup, hein, pour Hulk évidemment, oui. Et de la 3D et de la Schaeffer pour le reste, je pense que ça, c'est moins l'immersion qui l'intéresse que la vérité. Ce qui est super dans Jamie Mann par exemple,
mais ça va te perdre.
Ouais, mais c'est plus précis en fait, je pense. Mmh. Et ce qui est intéressant dans Jamie Mann, c'est que, par exemple, le personnage de Will Smith, il arrête pas de dire non, mais on fait pas de rendez-vous Skype, ou je veux pas vous avoir, je veux vous voir. Et c'est quand il voit les mecs en fait, qui sait, est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils font un double jeu, et puis quelles sont ses véritables velléités et tout, et avec son antagoniste principal qui est donc son moi jeune, c'est le gros truc en fait. C'est qu'il faut qu'ils puissent se voir. Il y a un mano à mano, ils arrivent pas à se voir, ils sont pas face à face. Et une fois qu'ils sont face à face, et ben là ça débloque le scénario, etc. Et évidemment, c'est un pendant sur la façon qu'il a de filmer. C'est-à-dire que dans Jamie Mann, par exemple, il y a très peu en fait de champ contre champ, on va dire classique. Vous regarderez, vous ferez attention, mais vous verrez que dans les discussions entre les personnages, il y a très rarement une amorce de personnages quand ils se parlent l'un et l'autre et que tu changes de point de vue.
Ce qu'il faisait beaucoup déjà dans Billy Lynn, mais qu'on pouvait voir sans.
Dans Billy Lynn, il travaillait. Et du coup, il travaille le gros plan et le truc de façon assez dingue. Et c'est aussi un des trucs où tu redécouvres le cinéma. C'était le gros truc de Spielberg, je me souviens, il disait la télé a tué le gros plan. Avant, le gros plan cinéma, ça avait un pouvoir, boum ! Quand tu voyais Hitchcock qui te foutait un gros plan, c'était bam ! Là, tu te disais, c'est un truc puissant, quoi. Et la télé a banalisé le gros plan, parce que la télé est obligée de travailler en plan rapproché pour des raisons économiques, puis aussi effectives, parce que nous, on n'a pas le même rapport à l'écran de télé qu'au cinéma. Billy Lynn, c'est ça qui est génial. Ça redonne du poids au gros plan. C'est-à-dire que tout à coup, je me dis, putain, j'ai plus besoin en fait d'un plan général ou d'un truc comme ça et tout. Je peux avoir juste un gros plan. Tout à coup, je redécouvre l'humain. Je le lis différemment. Je lis le jeu du comédien différemment. Et je lis le Will Smith numérique différemment. Voilà. En gros, un tout petit truc juste avant de laisser la parole à David sur le Will Smith numérique. Il y a un truc qui m'a fait super bizarre, mais qui prouve aussi que c'est vachement réussi. Tout n'est pas réussi hein, dans Will Smith numérique. Je dirais qu'il y a il est à 90% totalement réussi. Ce qui est gigantesque, c'est énorme. Alors évidemment, les gens et les détracteurs du film vont servir des 10% restants pour défoncer le truc.
Ça, c'est logique.
C'est énorme. C'est énorme ce qu'ils ont fait avec ce truc-là. Mais par contre, moi, le truc qui m'a troublé, qui est vachement intéressant sur la performance capture, parce qu'on en parle beaucoup moins quand même, c'est que je me suis dit, pendant le film, au début, je me suis dit, mais j'ai un problème quand même avec ce personnage. Et en fait, j'ai compris que j'avais un problème parce que Will Smith, il jouait pas comme ça, en fait, quand il avait cette gueule-là.
Oui.
Il jouait pas avec cette intensité-là et il se mettait pas en fragilité comme il se met dans le film. film. Et ça, ça m'a surpris, en fait. Mais j'ai eu du mal, en fait, à le lire et à
mettre le doigt dessus.
Comme ça. Pardon, David.
Ah, ça, c'est très intéressant. Et effectivement, ça appelle à réexaminer le film en s'imaginant le Will Smith du Prince de Bel-Air jouant le rôle. Quoi. Enfin, est-ce qu'on aurait pu adapter le rôle à ce type de persona, quoi. Et ouais, moi, je trouvais très intéressant ce que tu disais sur le fait que c'est un vrai tournant technologique et que la technologie est complètement moteur dans l'histoire du cinéma. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive... En fait, on revient à un terrain d'exploration et à quelque chose de primitif dans le rapport au cinéma. Et autant je trouve que, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que plein de problèmes de la 3D sont résolus par la haute fréquence. Et en même temps, j'ai quand même, moi, été confronté à des nouvelles problématiques qui ne sont pas toutes réglées et qui sont liées notamment au fait que, bah, comme tu le disais, on se rapproche de plus en plus de la perception naturelle de l'œil humain. Et du coup, pour moi, on est dans une sorte d'uncanny valley, en fait, c'est un terme qui fait référence en robotique ou en image de synthèse quand on reproduit un visage humain et plus on se rapproche de la réalité,
plus ça devient flippant
et un peu bizarre. Il y a un truc qui cloche et notre cerveau comprend que ça cloche, mais on sait pas exactement ce que c'est. Donc ça nous met dans une sorte de vallée du malaise. Et j'étais un petit peu là-dedans sur certains plans, et alors moins dans les plans d'action qui en fait voilà ouvraient mon regard à quelque chose de complètement neuf, mais justement plus dans des scènes plus plan-plan de champ contre champ, et notamment par les choix de focale, en fait, des choix par exemple de longues focales très cinématographiques avec l'arrière-plan flou. Avec ces effets-là, en fait, avec avec la haute fréquence, avec la 3D, deviennent très bizarres. Parce qu'en fait, c'est jamais comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que notre œil fait jamais à ce point le point sur le premier plan. Et c'est-à-dire que bah, quand je regarde...
Je pense qu'il faut tout repenser, en fait. C'est ça qui est génial avec les
attentes. Mais du coup, ça, c'est très intéressant parce que du coup, bah, j'ai certains plans. Il y a des plans sur la marina au début du film où j'ai une sorte de petit effet de tilt shift, un petit effet un peu miniature où on a l'impression que c'est toc. Et en fait, c'est parce que bah, là, sur ce coup-là, Ang Lee emploie des réflexes de mise en scène classique du cinéma qui ne sont plus vraiment adaptés à la technologie. Et ça, c'est très intéressant, justement, tout ce qui va reposer là-dessus.
Bah, moi, je pense que c'est parce qu'il le fait sans filet aussi. C'est ça, le truc sur ce film-là. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'il faut préciser vis-à-vis de... Et on verra sur Avatar ce que ça va donner sur les suites, parce que Cameron est censé tourner, en tout cas, un minimum 60 images secondes, je crois.
Non, je crois que c'est en 120, mais il était question, en fait, après... mais tout va changer, je pense. Mais après Billy Lynn... c'est une petite aparté, mais il était question en fait qu'il change la fréquence d'image au cours du film, ce qui à mon sens est une connerie. Si je puis me permettre, hein, je vais pas me mettre à la place de Cameron, mais je vois pas trop comment ça peut fonctionner. En fait, je trouve ça bizarre. Mais je sais pas, on sait pas.
Hein, on sait pas encore exactement, mais en tout cas, l'idée c'est que c'est un univers de fantasy comme le Hobbit était un univers de fantasy. Là, c'est pas un univers de fantasy. Il y a certes un clone, il y a certes un élément, on va dire entre guillemets fantastique. Entre
il y a
guillemets.
Un cadre réaliste.
Voilà, mais il y a un cadre extrêmement réaliste et il le joue en fait complètement. Et du coup ce réalisme en fait qu'il recherche c'est ce qui est bizarre en fait aussi dans le film. C'est-à-dire que pour nous, je pense que si on avait 20 films comme ça par an, on n'aurait absolument pas ce problème-là en fait sur le film. Mais le fait est qu'on en a qu'un une fois tous les 3 ans, il se trouve que il y a pas il le fait vraiment sans filet. Moi j'aime beaucoup le Hobbit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très belles dans le film, mais j'ai l'impression que je dis peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que l'idée en fait que ce soit un univers de fantasy, il a des façons, quoi qu'il arrive en fait, de se rattraper. Voilà, comme à l'époque quand il avait tourné finalement Le Seigneur des Anneaux et que l'idée de pouvoir faire de l'étalonnage numérique derrière pouvait finalement en fait assainir en fait l'univers en soi et le rendre cohérent. Et là en fait je pense qu'il y a la même chose et sauf que je pense que même s'il y a de l'étalonnage numérique, c'est évident dans Gemini Man. bah, y a quand même en fait, cette approche réaliste ultra poussée. J'ai pas envie de dire cinéma vérité parce que c'est pas filmé comme ça, mais en fait, mes nouveaux cinéma vérité presque, j'ai envie de dire, qui, oui, nous semble étrange parce qu'on sait quand même qu'on est en train de regarder un film. On ne perd pas cette perception-là. Quoi.
Pour conclure, on va faire comme d'habitude une petite rapide session de recommandations. Je vais préciser, mais est-ce que c'est bien nécessaire de le préciser, que vous êtes totalement libre de vos choix, David, tiens.
Moi, juste rapidement, je vais recommander un autre film d'Ang Lee qu'on peut avoir un peu tendance à oublier, qui est un autre film d'espionnage, qui s'appelle Lost Caution, et qui est un film très intéressant, justement, sur les faux-semblants, les jeux de dupes, etc., et la proximité entre les personnages et tous les enjeux moraux que ça peut avoir. Et voilà, si vous découvrez Ang Lee avec Jimmy Man et vous vous dites « Ah, mais c'est un mec qui fait des sortes de pseudo-nanars des années 90 », vous pouvez aller voir que il a fait ses preuves sur le film d'espionnage, beaucoup plus dense et beaucoup plus complexe aussi par le passé. Quoi.
Julien ?
Moi, je vais conseiller un livre, The Making
of. Tu l'as même emmené.
J'aime bien avoir l'objet.
Vous l'entendez là dans le podcast.
Et puis quand je le cache, je repense à Arnaud Bordas qui me l'avait offert.
Qui te l'a offert, c'est adorable.
J'ai les poils qui se hérissent.
Enfin, c'est beaucoup d'amour.
C'est un super bouquin. Mais ce que j'adore en fait, dans ce livre, il y a deux pages en fait, que j'adore. Rien que pour ça, je conseille de l'acheter, qui sont deux pages où il y a des.
Je cherche la page, mais quand même, vas-y.
Où il y a la. Il y a une mise en place en fait du langage 3D et de qu'est-ce que ça peut signifier, notamment avec le niveau, le plan écran, le terme m'échappe là en français, mais bon, c'est super. C'est super intéressant. Bon, ils en parlent beaucoup en plus dans le bouquin, mais rien que pour ça, en fait, on se rend compte à quel point ils se posent vraiment des questions sur le langage, en fait, et sur l'image. Vive la 3D, voilà. Non, mais je suis très énervé vers les gens qui disent c'est 3D, c'est gadget.
Redis le titre du bouquin.
The Making of Life of Pi, tout simplement.
Très bien.
Paille, tout à fait.
Stéphane.
Moi, je suis tout chamboulé. Mais en plus, c'est hyper difficile de trouver une reco derrière ce qu'on a vu. Quoi. Donc, le seul truc, à la limite, c'est parce que je sais que vous avez fait une émission, mais j'étais pas dans cette émission, je crois, sur. C'est préciser que, tout simplement, en fait, qui en soi, un très grand film, Billy Dean, même en 24 images secondes, tout tramé, tout dégueulasse, etc., etc., bah, il existe en 4K, enfin, ultra HD, et comme les gens sont peut-être un peu plus équipés aujourd'hui, voilà, il y a quand même moyen de le voir. Je crois qu'il y a une phase 3D, mais c'est en 2K. Enfin, 2K, non, c'est pas en 2K, c'est en 4K 3D, mais 24 images secondes, et il y a une face, en fait, en 60 images secondes, voilà. C'est assez. Enfin, moi, j'ai vu quelques scènes, j'ai pas encore revu le truc en entier, quoi, parce que j'ai pas de télé HD, donc, 4K, pardon, que je voulais vraiment me le faire comme ça, quoi.
C'est un appel, du coup, pour créer une cagnotte,
Par exemple, ouais, alors une cagnotte Litchi pour me payer. Alors, elle coûte un peu cher, c'est 4000 balles, quand même, et puis après, ils font une barre de son, et patati, patata.
On fera plusieurs cagnottes.
On peut pas avoir la super. L'image et pas le son, quoi. Voilà,
c'est vrai.
Et voilà, donc c'est juste en fait, ça existe. Donc pour ceux qui veulent vraiment en fait se plonger dans cette entre guillemets nouvelle techno, on a beaucoup exagéré. Hein. Anaconda l'avait déjà fait avant, voilà, ça existe. Voilà.
Très bien, et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Marie à la technique, binge.audio pour toutes les infos utiles, et puis on vous dit à très vite.